entre Lille et Strasbourg sous les nuages. Nous n'avons plus qu'un petit degré à Rodez ainsi que à Luchon ou à Saint-Giron. Des températures qui dans la journée vont gagner du terrain puisqu'il pourra faire jusqu'à 17 degrés à Paris ou à Lyon, 17 degrés à Bordeaux et à Toulouse. Je vous le disais, vers la Méditerranée, on pourrait dépasser les 18 degrés.
Merci beaucoup Rémi André. Très bon début de journée à tous avec Sud Radio. Nous sommes le vendredi 3 mai, il est 7h. Sud
Radio. Parlons vrai.
Et le journal de 7h nous est présenté par Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Agression au couteau en plein cours à Toulouse. Une adolescente blessée par un autre élève de 19 ans. Il a été placé en garde à vue.
Journée de galère en perspective pour les voyageurs le 21 mai. Grève annoncée à la SNCF Île-de-France. Les raisons de la colère expliquées dans ce journal.
Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi logement où les règles sont durcies pour les locataires de HLM.
Sciences Po Paris restera fermée aujourd'hui après le débat avec la direction, les militants pro-palestiniens décident d'occuper à nouveau les locaux.
Le drame a été évité de peu à Toulouse. Une adolescente de 16 ans poignardée par un autre élève en plein cours de sport.
L'agresseur de 19 ans a été placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un différend amoureux qui est l'origine de cette attaque dans le gymnase du lycée. La victime n'a été que légèrement blessée. Les précisions de Mostafa Fourard, recteur de l'Académie de Toulouse, sur place au micro Sud Radio de Christine Bouillot.
En fait, c'est un élève de l'établissement qui a agressé une autre élève dont il prétend être amoureux. Et donc, manifestement, il déclare avoir entendu des voix et ça fait un petit moment qu'il l'a suivie, mais elle ne l'a pas déclaré manifestement à l'équipe de direction. Et à rendre hommage à cet élève qui s'est interposé, parce que c'est quand même un élève qui s'est interposé pour empêcher l'agression. Ce qui fait que finalement, la jeune fille est légèrement blessée.
Et une cellule d'écoute a été mise en place ce matin pour les lycéens et enseignants de l'établissement.
Le gouvernement promet un choc d'offres pour mieux loger les Français. Le projet de loi controversé sur le logement est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres.
Construire plus de logements sociaux mais durcir les conditions d'accès au HLM pour les locataires, c'est l'objectif du gouvernement pour répondre à cette crise historique du logement puisqu'il y a 2,6 millions de personnes en attente d'un logement social. Alors parmi les mesures proposées par le ministre du Logement Guillaume Kasbarian au Conseil des ministres aujourd'hui, pour les villes, il y aura 25% de logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux. Les maires auront également plus de liberté dans l'attribution des logements HLM. Les permis de construire seront plus faciles et plus rapides à obtenir. Pour les locataires, les surloyers, en revanche, s'appliqueront dès le premier euro de dépassement au lieu de 20% aujourd'hui. Les plafonds de revenus seront abaissés. Et si ce dépassement de 20% a lieu 2 ans de suite, le bail social sera automatiquement résilié.
Journée noire à l'horizon dans les transports en Île-de-France le 21 mai prochain.
Avec un nouvel appel à la grève de la SNCF Île-de-France à la veille des négociations sur les primes versées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des demandes de compensation financière logiques pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
On parle entre 15 et 20 millions de personnes en plus qui viendront dans le cadre des JO, qui prendront sûrement les transports en commun, dont les trains de la SNCF. Donc on aura une charge de travail très importante. Donc c'est tout simplement la question de compensation financière pour absorber cette charge de travail supplémentaire. Il y a une négociation qui traîne depuis des mois et des mois, et comme je le dis, je pense que les gens peuvent l'entendre, mieux vaut négocier aujourd'hui que la veille des JO, comme ça a pu se passer dans d'autres secteurs.
Fabien Villedieu au micro de Clément Arien.
Oui, bon, rappelons quand même qu'il y a eu un accord entre la direction, la SNCF et puis les cheminots, les syndicats, plutôt avantageux pour les cheminots en parlant de retraite, mais effectivement, donc ils en attendent un peu plus pour compenser sur les Jeux Olympiques. On aura compris. À Sciences Po, l'échange devait apaiser les tensions. Finalement, échec pour la direction qui fait face à de nouveaux blocages.
La Sciences Po Paris restera fermée. Aujourd'hui, la direction a refusé la principale demande des militants pro-palestiniens, à savoir la création d'un groupe de travail sur les relations avec les universités israéliennes. Et Quentin Gérard, ces divergences entre étudiants et administration sont loin d'être terminées.
Quelques Quelques minutes après les discussions internes sur le Proche-Orient, Jean Basser, directeur provisoire de Sciences Po Paris, sort de l'amphithéâtre et livre son sentiment.
Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotions. J'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme.
Devant l'établissement, Eden, membre du syndicat Nova, a assisté à tous les échanges et il en sort particulièrement déçu.
L'administration a manqué en termes de communication, de pertinence, d'efficacité, puisque ce qui nous a été dit, c'est qu'il y avait des instances qui existaient déjà et que finalement, il n'y aurait pas plus de débat. Organiser du débat pour dire qu'il n'y en aura pas davantage, on n'a pas trouvé ça forcément le plus pertinent possible.
Quentin non plus n'est pas satisfait de cet événement. Le responsable de l'UNI aurait voulu plus de fermeté et déplore les syndicats qui menacent encore de bloquer l'école.
On a discuté de choses qu'on savait déjà, des positions qu'on connaissait déjà, et maintenant l'administration tombe des nues de savoir que les étudiants vont recommencer alors que c'était prévisible.
Face aux réponses de l'université qu'elle ne considère pas satisfaisantes, une étudiante a commencé une grève de la faim hier, suivie par plusieurs autres dans la journée. Hicham du comité Palestine.
L'étudiant poursuivra cette grève de la faim jusqu'à ce que Sciences Po accepte la demande suivante, l'inscription à l'ordre du jour et la tenue d'un vote pour l'investigation des partenariats avec les universités israéliennes contribuant au génocide.
En signe de protestation, les étudiants du comité Palestine sont ensuite restés assis dans les couloirs de l'établissement.
Et du côté de Sciences Po Lyon 1, là c'est une centaine d'étudiants qui occupaient hier l'amphithéâtre, menacés par la direction d'être évacués par les forces de l'ordre. D'autres rassemblements ont lieu à Paris du côté de la Sorbonne ou encore à Lille ou Saint-Étienne.
Et puis ça se tend également aux États-Unis, du côté des campus. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Jean-Baptiste Noé dans À travers le monde. On poursuit d'ici là le journal avec vous, Laurie. À Gaza, toujours pas de trêve en perspective.
Le Hamas palestinien doit toujours répondre sur la proposition de trêve de 40 jours. En échange de la libération d'otages, alors que du côté de l'ONU, il y a eu des destructions sans précédent à Gaza, qui estime la reconstruction entre 30 et 40 milliards de dollars. 72% des bâtiments du territoire palestinien ont été entièrement ou partiellement détruits.
La politique, nous sommes à un mois des européennes et la course en vue de ces élections s'accélère avec le premier débat qui opposait hier Jordan Bardella à Valérie Ayer.
Et les têtes de liste du Rassemblement National et de Renaissance se sont affrontées pendant un peu plus de deux heures sur BFM TV. Jordan Bardella qui se dit favorable à la taxation des super profits pour les industriels de l'alimentaire et également de l'énergie. Réponse de Valérie Ayer, c'est merveilleux, on l'a déjà fait. Les deux candidats également radicalement opposés sur la question de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Jordan Bardella qui appelle par ailleurs à une libre circulation dans l'espace Schengen uniquement pour les ressortissants de l'Union européenne.
De son côté, Emmanuel Macron met à nouveau en garde la Russie sur un possible envoi de troupes au sol en Ukraine.
Dans une interview au journal britannique The Economist, le chef de l'État explique qu'on devrait légitimement se poser la question en cas de percée de la ligne de front par les Russes et s'il y a une demande de l'Ukraine. Le chef de l'État qui précise qu'actuellement ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron qui a également déclaré « Je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien » à propos de Vladimir Poutine.
Emmanuel Macron qui recevait par ailleurs hier les syndicats agricoles et annonce qu'il ne partagera pas son projet d'avenir pour l'agriculture avant 2025.
Emmanuel Macron qui annonce donc attendre les prochaines élections aux chambres d'agriculture en janvier. Avant cela, il y aura toutefois dès la rentrée un discours pour détailler une stratégie commune pour l'agriculture. Résultat de la déception à la sortie de cette réunion. Laurence Marandola est porte-parole de la Confédération paysanne.
Déçue parce qu'il n'y a pas d'annonce forte, déçue parce qu'il n'y a pas une mise en chantier, un calendrier très clair pour les jours et les semaines qui viennent pour répondre aux difficultés des agriculteurs. Et déçue parce qu'on ne voit pas d'engagement vers une évolution absolument indispensable de l'agriculture pour garder des agriculteurs les plus nombreux possible pour installer des jeunes. On peut comprendre que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. On n'est pas naïf, ça on le sait, mais ce qui est le plus décevant, c'est qu'il n'y ait pas de décision politique forte.
Et du côté des députés de l'Assemblée, en commission, ils ont approuvé hier de donner un caractère d'intérêt général majeur à l'agriculture.
Allez, on termine avec le football, l'Olympique de Marseille qui peut nourrir des regrets, mais qui a encore toutes ses chances de poursuivre dans la Ligue Europa.
Et oui, match nul, un partout à domicile hier pour l'OM contre l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa avec cet avant-match qui a été marqué par des insultes racistes et des saluts nazis dans les tribunes des supporters italiens. Le procureur de la République a été saisi pour ses faits. Dans l'autre demi-finale hier soir, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Rome 2-0. Les matchs retour auront lieu jeudi prochain.
Merci beaucoup, Laurie Leclerc. Sud Radio, il est 7h09. On reste ensemble. Je vous le disais, dans quelques minutes, on va retrouver notre éditorialiste Jean-Baptiste Noé pour parler, parce que c'est vrai qu'on parle de Sciences Po Paris qui a dû fermer ses portes, qui ne rouvrira pas aujourd'hui à cause de ses mobilisations pro-palestiniennes, de ses blocages, de ses occupations. Eh bien, ça se tond encore plus du côté des campus américains. Jean-Baptiste Noé nous dira tout de cela. Et puis juste avant, on va revenir sur ces mesures, ces annonces du gouvernement concernant la lutte contre la prostitution. 25 mesures annoncées. Pour quels résultats? On voit ça juste après ça. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Bercoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous.
Sud Radio, parlons vrai.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron ?
Là, j'aspire au calme.
Bah, c'est raté. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, Lidl fait moins 33% sur l'aspirateur sans fil Silvercrest garanti 3 ans. Soit 19,99€ au lieu de 29,99€.
Moins de 20€ l'aspirateur 2 en 1. On nous vend du vent.
Ah non, patron. Plutôt un aspirateur à main et balai avec technologie cyclonique et filtre EPA.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio Alès
95
Sud Radio.
Mais où peut-on trouver un salon de jardin à 99,99€?
Et sur ma terrasse, ça devient un salon de terrasse?
On peut dire ça. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseu.com du 2 au 4 mai et profitez de 50% de remise sur le salon de jardin Miami fabriqué avec 80% de matériaux recyclés, soit 99,99€ au lieu de 199,99€. Et c'est seulement du 2 au 4 mai. U, commerçant autrement.
Dont 3,80€ d'éco-participation, prix conseillé par U Enseigne au magasin U participant et valable sur courseu.com pour un retrait du 2 au 4 mai inclus dans la limite des stocks disponibles.
Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après, il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les deux heures.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Bière Pélican présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée, pas de doute. C'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30€ d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer, voire conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio, 7h13, c'est à la une, mieux lutter contre la prostitution. C'est tout l'objet des 25 mesures dévoilées hier par le gouvernement. Création d'une cellule de cyber-enquête, création de lieux d'accueil pour les mineurs victimes de la prostitution. On en parle avec vous, Jennifer Payet, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Nos Ados Oubliés, qui aide les mineurs victimes de la prostitution ainsi que leurs familles. Engagement né d'une expérience personnelle. Jennifer Payet, votre fille est tombée à 14 ans sous la coupe d'un proxénète. Vous avez réussi à l'arracher à cet homme qui a été depuis condamné à 12 ans de prison. Comment accueillez-vous déjà, Jennifer Payet, les annonces du gouvernement 8 ans après, il faut le rappeler, la loi sur la pénalisation des clients? Il y avait urgence à aller plus loin?
Oui, ben, on voit de nouveau une annonce de plan interministériel, donc de nouveau plusieurs ministères alliés sur cette cause, ça fait plaisir. Pour ce qui est des annonces qu'on a pu voir paraître hier, concernant les cyber-enquêtes, ben, je pense que c'était vraiment nécessaire de plus attendre que des jeunes filles qui déposent plainte voient des enquêtes s'ouvrir et peut-être faire la chasse plutôt aux proxénètes. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Pour tout ce qui est des lieux d'accueil, ben, c'est vraiment nécessaire. Hein. On le voit, nous, avec toutes les jeunes filles qu'on accompagne par le biais de l'association. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu hein, pour elles. Donc, on attend de voir ce qui va être mis en place.
Est-ce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun accompagnement possible, aucun accueil possible, échange pour ces personnes-là?
Il n'y avait rien, en tout cas, de destiné à ces jeunes filles, à part le lieu d'accueil qui avait été créé sur l'île. Après, au niveau des départements, on a le soutien de l'aide sociale à l'enfance ou des parents qui se mobilisent, mais il n'y avait pas vraiment de lieu destiné à cette problématique.
Donc des mesures intéressantes, des bonnes idées qui sont mises en avant finalement par le gouvernement à ce niveau-là, beaucoup de positifs, c'est ce que vous retenez?
Bah oui, après moi j'attends vraiment de voir ces lieux d'accueil, vraiment, j'espère que ce ne sera pas similaire à ce qu'il y a eu à Lille, hein, parce qu'on a pu voir que ces lieux qui sont de grosses capacités... c'est pas forcément hyper pertinent pour de réunir toutes ces jeunes filles au même endroit, mais des petits lieux d'accueil, en tout cas par département, ça peut être une super bonne idée.
Vous parlez de quelque chose qui est capital également, c'est d'avoir une bonne répartition territoriale éventuellement, de ce réseau, de ces lieux d'accueil, ça c'est important puisque dans la lutte contre ce qu'est la prostitution, c'est souvent quelque chose qui pose problème, qui n'est pas suffisamment travaillé.
Bah non, c'est vraiment, il faut vraiment que ce soit par territoire. Enfin, vous voyez, nous, c'est arrivé avec l'association qu'on contacte Lille hein, pour les prises en charge, mais on est sur Toulouse. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un lieu en France qui soit destiné à ça et qui se trouve à l'autre bout de la France, pour nous en tout cas. Dans le Sud, on était vraiment démunis d'accompagnement.
Vous l'avez vécu en tout cas vous-même, ce sentiment d'être seul quand on se bat pour récupérer, pour retrouver sa fille, c'est un sentiment forcément partagé par beaucoup d'entre vous quand il se passe cela. Est-ce que vous avez l'espoir que ça puisse changer? Est-ce qu'il y a déjà eu une prise de conscience à ce niveau-là et est-ce que c'est en train de changer véritablement?
Moi, je vois une différence entre ce que j'ai subi en 2019-2020 avec ma fille et aujourd'hui. Vraiment, même au niveau des forces de l'ordre, de l'écoute des professionnels, des institutions, ça a déjà évolué. Vraiment, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est très long. Et c'est ce qui est difficile à dire aux parents, d'être patient.
Un chiffre, en tout cas, qui est donné hein, par le gouvernement, il est quand même assez choquant. Les mineurs qui représentent désormais 30% des 40 000 personnes prostituées en France, ça aussi, ça doit être un déclic qu'on doit avoir, lever le tabou finalement de ce sujet-là.
Ouais. Ben, on parle encore que de mineurs identifiés. Ça veut bien dire qu'il y en a bien plus que ça au final. On peut pas toutes les identifier. Je pense qu'on a encore du mal justement à recenser le nombre de victimes. Donc oui, c'est vraiment un chiffre énorme et oui, il faut lever le tabou et que la honte change de camp et que les gens se rendent compte que les mineurs sont victimes. Et que ça avance.
Et c'est l'objectif hein, notamment de ces mesures, de mieux accompagner les familles, de mieux entendre aussi les mineurs qui sont victimes, et puis aussi de cibler, de pouvoir cibler plus rapidement, notamment grâce aux cellules de cyber-enquête, de cibler, de mieux cibler justement les proxénètes. Un mot sur les moyens quand même annoncés dans ces différentes mesures, est-ce que c'est pas là le petit souci finalement, le petit manque?
Ça manque de moyens depuis longtemps. Hein. Même nous, on se rend compte un peu sur l'aspect de l'enquête ou autre. Hein. Malheureusement, il y a des jeunes filles, on fait des dépositions ou autre, et une dizaine de jours après, elles sont toujours sur le bureau. Quoi. L'enquête n'est pas lancée, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens humains. Oui, il va falloir débloquer réellement des moyens pour cette problématique, autant que pour les autres sujets sociétals en tout cas. Parce que c'est devenu un sujet sociétal, c'est bien un sujet sociétal.
Je voyais le montant de l'allocation là, pour aider les personnes à sortir de la prostitution. 342 euros par mois, c'est pas beaucoup pour sortir de cet enfer.
C'est pas énorme. Puis en plus, c'est des indemnités pour les majeurs. Toutes les jeunes filles qu'on accompagne aujourd'hui qui ont entre 12 et 14 ans, elles n'ont pas d'enveloppe pour sortir de la prostitution. Elles n'ont pas la possibilité d'avoir une insertion dans un cursus alternatif, puisqu'elles ne repartiront pas à l'école. Elles ne peuvent pas faire de stage. C'est des jeunes filles qui sont en vrai très jeunes et qui sont éligibles à rien, ni au contrat, ni sur local, ni à rien.
C'est là où finalement le gouvernement doit proposer davantage, quoi.
Bah oui, en tout cas, cibler un petit peu plus au niveau des mineurs, même des mineurs de moins de 15 ans, puisque quand même, on le constate, hein, que la majorité des jeunes filles sont très très jeunes. Donc ça, il y a aussi la prostitution et la prostitution des mineurs. La prostitution juvénile aujourd'hui n'a rien à voir avec la prostitution qu'on connaît. C'est vraiment deux thématiques complètement différentes.
Avec l'un des angles morts qu'on avait jusqu'à présent, voilà, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe sur Internet, quoi.
Tout à fait. D'où le fait que ces cyber-enquêtes, c'est très intéressant de voir qu'il y aura en tout cas des moyens dédiés à ces enquêtes-là et à cette problématique.
Jennifer Payet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc la présidente et fondatrice de cette association Nos Ados Oubliés, qui aide donc les mineurs victimes de la prostitution ainsi que leurs familles. Merci et bonne journée à vous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio à 7h20, le rappel des titres. À Toulouse, une adolescente de 16 ans agressée au couteau dans le gymnase de son lycée par un homme de 19 ans. La jeune fille a été blessée au bras. L'individu, l'homme de 19 ans, a été placé en garde à vue. Il souffrira de graves troubles psychiatriques et aurait agi par dépit amoureux. Emmanuel Macron met à nouveau en garde la Russie sur un possible envoi de troupes au sol en Ukraine. La question se pose, selon le chef de l'État, en cas de percée de la ligne de front par les Russes. Et s'il y a une demande faite de la part de l'Ukraine. Et puis Sciences Po restera fermée aujourd'hui après le débat hier entre direction et étudiants pro-palestiniens. Une nouvelle occupation des locaux est en cours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, hashtag on en parle. Hashtag on en parle avec vous, Maxime Trouleau. Il avait qualifié Benjamin Netanyahou de sorte de nazi sans prépuce. Hein, je le cite, Guillaume Meurice en l'occurrence, qui refait sa blague et qui pourrait être écarté de France Inter.
Oui, une info qu'il a lui-même publiée hein, sur son compte Twitter hier. Il sera convoqué dans les prochains jours par la direction de France Inter. Souvenez-vous, le 29 octobre dernier, l'humoriste avait fait une blague, un sketch hein, sur le premier ministre israélien. Mais le procureur avait classé sans suite une plainte pour antisémitisme qui visait Guillaume Meurice. Une nouvelle dont s'était réjoui l'humoriste justement, c'était dimanche dernier.
Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y.
Voilà, le procureur qui avait rejeté cette plainte. Mais à l'époque, en octobre dernier, l'ARCOM, hein, le gendarme des médias, avait infligé une mise en garde à l'encontre de France Inter. Ça avait fait polémique. Guillaume Meurice qui est désormais écarté pour au moins les deux prochaines émissions avant peut-être un départ définitif. Une annonce qui n'a pas laissé insensibles les internautes, Benjamin, avec ceux qui s'en réjouissent et ceux qui le soutiennent, notamment de nombreux élus de la NUPES.
Merci à vous, Maxime Trouleau. 7h22, on revient dans un instant avec Jean-Baptiste Noé. Occupation, arrestation aux États-Unis. Le mouvement pro-palestinien gagne de l'ampleur dans les universités. La tension est maximale. Des mobilisations qui ont été depuis importées. Vous le savez, on en parlait à l'instant. En France, plusieurs campus bloqués ce matin, notamment Sciences Po, Paris. On va voir ce qui se passe concrètement aux États-Unis dans un instant. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
7h. Sarah profite de ses draps La Redoute Intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps.
Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit 19,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voir conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La Redoute, vivre le beau.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé.
Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Saveur rhum, hein ? Clairement, on change d'horizon. Desperados Tropical, ça a le goût de l'exotique, cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette au saveur rhum est colorée, fruitée, mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
7h25 sur Sud Radio à travers le monde, tout de suite avec vous Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Benjamin.
Bon, de New York à Los Angeles, ce sont donc plusieurs universités qui sont bloquées par des mouvements pro-Palestine. Mouvement qui est arrivé depuis en France avec les blocages, notamment Sciences Po en ce moment aux États-Unis. Bien, c'est le reflet d'un malaise intellectuel, dites-vous, où la question palestinienne sera l'un des enjeux de la campagne présidentielle.
Oui, c'est nouveau. Il y a toujours eu des mouvements politiques ou sociaux sur les campus américains dans les années 60 avec la guerre du Vietnam. Donc ces blocages ne sont pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est la raison des blocages. C'est la première fois que les problèmes en Israël et en Palestine déteignent ou ont des répercussions aux États-Unis. En Europe, on l'avait déjà vu. Aux États-Unis, c'est une première. Avec des mouvements qui sont malgré tout assez violents, des universités bloquées. On voit apparaître les symboles palestiniens, les keffiyehs, des étudiants juifs qui n'ont pas pu accéder à certaines universités. Donc tout ça est le signe d'une Amérique qui ne va pas très bien, qui est fébrile, et d'un mouvement politique qui se catalyse autour de la question palestinienne.
Alors si les blocages se font pour défendre les Palestiniens, est-ce que c'est la véritable cause de ces mouvements politiques ?
Alors il y a incontestablement des étudiants qui sont choqués, blessés par les problèmes qu'il y a à Gaza, par les problèmes que supportent les civils bien évidemment, mais en réalité c'est le catalyseur de problèmes américains qui sont beaucoup plus anciens. Ça fait déjà plusieurs années que l'université américaine va mal. Alors il y a les questions de ce qu'on appelle le wokisme, des cours de littérature qui avaient été européennes, qui avaient été interdits, l'ancien président d'Harvard qui a tenu des propos assez ambigus sur la Shoah, elle a même démissionné. Donc on a une université qui va mal, qui est le reflet également d'une Amérique qui a sur les beaucoup de problèmes intellectuels, qui se posent aussi des questions sur elle-même. Et la Palestine est en train de catalyser cet ensemble. Et ce n'est que le reflet d'une jeunesse aussi qui est de plus en plus radicalisée et violente et qui n'hésite plus maintenant à faire usage de certaines formes de violence.
Bon, c'est un mouvement qui fracture au sein même le parti démocrate et puis les États-Unis dans leur ensemble, quoi.
Oui, on a en fait différentes couches qui se superposent. Alors la couche internationale avec les problèmes en Israël, en Palestine, et puis la couche nationale aux États-Unis, puisque dans quelques mois, on a des élections américaines, présidentielles américaines. Or, traditionnellement, les juifs américains veulent plutôt démocrates. Et Joe Biden a besoin de ces voix-là pour être réélu. Et là, ces étudiants qui se révoltent, c'est aussi une partie de l'électorat démocrate. Et notamment, et ça c'est un fait nouveau, un électorat américain musulman, notamment dans un état clé qui est le Michigan. C'est-à-dire que si Joe Biden perd le Michigan, il y a peu de chances pour qu'il gagne la présidentielle. Or, d'accord, il a besoin à la fois des voix des juifs américains et des voix de ceux qui aujourd'hui soutiennent le mouvement palestinien. Donc ça le met évidemment dans une situation très inconfortable.
Oui, un risque de séisme électoral d'une certaine manière, une recomposition politique en tout cas.
Exactement, on est vraiment dans cette recomposition. Donald Trump essaye d'en faire les frais en en tirant un avantage. C'est pas forcément gagné, mais en tout cas, on voit que les anciennes structures politiques aux États-Unis sont en train de se recomposer.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, à travers le monde. Et la réplique du jour, tout de suite à 7h28, la politique française, politicienne, peut-être, je sais pas. En tout cas, hier, c'était le premier débat entre Valérie Ayer, liste Renaissance pour les Européennes, et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Et heureusement, heureusement qu'ils n'ont pas suivi l'exemple de Gad Elmaleh et de Jamel Debbouze.
Bienvenue dans ce dernier débat des primaires. Ce soir, face à face, nos deux candidats, Hamid Bergeron et Jean-Michel Benabdella, vont confronter leurs idées pour la France.
Je suis pas d'accord déjà de base. À la base, je m'oppose.
C'est même pas vrai, ça.
C'est même pas la peine. Vous n'avez même pas une once.
Attendez, un peu de patience. Monsieur,
je suis pas d'accord avec ça.
Un peu de patience. Vous allez pouvoir vous exprimer.
Oui, je sais, mais c'est pour l'ambiance du débat, la polémique. C'est.
On s'y chauffe.
Et croyez-y.
En France, on n'est souvent pas d'accord. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Allez, 7h29 sur Sud Radio, la météo.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, la météo, on va se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une amélioration, mais qu'elle est très légère.
Elle est très légère, effectivement, mais on a tout de même une petite amélioration aujourd'hui. Moins de nuages, moins d'orages, mais nous avons tout de même du soleil un peu plus présent, notamment vers la Méditerranée, où avec un peu de mistral et tramontane, eh bien, le soleil va dominer dans le secteur, mais il ne fera pas bien chaud, même si on atteint les 18 degrés du côté de Marseille ou de Perpignan. Ailleurs, eh bien, nous avons eu de belles éclaircies cette nuit, depuis le sud-ouest jusqu'au massif central, ce qui a permis aux températures de se rafraîchir aux alentours de 1 à 4 degrés. Eh bien, dans l'après-midi, là, les températures vont remonter, mais elles ne dépasseront pas les 17 voire 18 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Nous avons également donc une petite amélioration entre la Normandie et le bassin parisien avec le retour des éclaircies cette nuit, là aussi avec du rafraîchissement, mais ce n'est pas la même chose car dans l'après-midi, les averses que nous avons actuellement entre la Vendée et les Charentes vont progresser à l'intérieur des terres et peu à peu vont se diriger vers la Normandie, le bassin parisien, le Limousin, l'Auvergne, quelques-unes sur le sud-ouest, mais beaucoup plus rares. Donc voyez, aujourd'hui, cela reste une petite amélioration, mais encore dans cette instabilité.
Merci à vous, Rémi André. Un grand merci pour votre fidélité à Sud Radio. Il est 7h31.
Parlons vrai.
Le journal avec vous, Clémence Lobary, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un militaire atteint de la fièvre de Lassa, il a été hospitalisé en Île-de-France. C'est un virus qui sévit particulièrement en Afrique de l'Ouest. Pas de sortie après 23 heures pour les jeunes niçois de moins de 13 ans. Depuis mercredi et pour toute la période estivale, Nice a pris un arrêté de couvre-feu afin de lutter contre la délinquance, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Et puis les vélos n'ont plus la cote, semble-t-il. Les ventes de deux roues ont chuté en 2023, une baisse de 14% sur un an. Un cas de fièvre de Lassa en France. Un militaire revenu de l'étranger a été hospitalisé en région parisienne et son état de santé ne présente aucune inquiétude. La fièvre de Lassa, on le rappelle, est un virus plutôt rare en France et surtout présent en Afrique de l'Ouest, Nicolas Gomez.
Oui, c'est un petit rongeur appelé le rat de Natal qui vit en Afrique de l'Ouest et qui serait en effet la source de ce virus. Alors, 80% des cas de cette maladie restent asymptomatiques, mais dans les 20% restants, des symptômes peuvent apparaître comme de la fièvre, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et des céphalées. Et dans de très rares cas, la fièvre de Lassa peut être mortelle. En Afrique de l'Ouest, entre 5000 et 6000 personnes en meurent chaque année. Un seul traitement existe à ce jour pour soigner la fièvre de Lassa, la ribavirine, un antiviral. Seulement, il n'est efficace que s'il est administré très rapidement après l'infection.
En attendant, une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer les personnes qui auraient été en contact à risque avec le malade français. L'actualité, c'est également cet otage israélien détenu dans la bande de Gaza qui serait décédé C'est en tout cas ce qu'annoncent les autorités israéliennes et des proches. Cet homme âgé de 47 ans avait été enlevé le 7 octobre dans un kibboutz dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l'attaque du Hamas. Cette annonce intervient alors que des négociations sont en cours en Égypte sur une nouvelle proposition de trêve associée à la libération d'otages. Et en France, la mobilisation des étudiants pro-palestiniens ne faiblit pas. Les étudiants du comité Palestine du Sens Po ont annoncé hier le lancement d'un sit-in pacifique dans le hall de l'école parisienne et le début d'une grève de la faim par 6 étudiants. Conséquence, la direction, elle a décidé de fermer les locaux aujourd'hui. Deuxième nuit sous couvre-feu pour les jeunes niçois. Depuis mercredi, les moins de 13 ans n'ont pas le droit de sortir entre 23h et 6h dans certains quartiers. Une mesure qui s'étend même aux moins de 16 ans dans le quartier des Moulins. L'objectif, lutter contre la délinquance. Un dispositif inutile, selon David Nakache. Il est le président de l'association niçoise Tous Citoyens.
Faire des effets d'annonce faciles, bah justement, c'est la facilité, c'est de la démagogie et c'est quelque part une forme de populisme. On joue la fermeté, on annonce un couvre-feu pour les mineurs, on va sécuriser la ville. Dans les faits, ça marche pas, parce que les couvre-feux pour mineurs ont été déjà mis en place à Nice, ils sont mis en place dans de nombreuses communes, et il n'y a aucun compte-rendu, il n'y a aucune étude qui démontre l'efficacité de ces mesures. Ça n'a pas de conséquences directes positives et bénéfiques sur la baisse de la délinquance.
L'association Tous Citoyens demande plutôt des mesures préventives, notamment autour de l'éducation ou du logement, pour lutter contre la délinquance. Le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sera décompté comme du temps de parole pour la majorité en vue des européennes. L'ARCOM a tranché hier, une semaine après la prise de parole du chef de l'État sur l'Europe. Pendant ce temps, Jordan Bardella et Valérie Ayé se sont affrontés pour la première fois en débat hier soir sur BFM TV. À un mois des élections du 9 juin, les têtes de liste du RN et de Renaissance se sont opposées sur de nombreux sujets, comme l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, les mesures de soutien à l'agriculture ou encore l'immigration. Moins 14% de ventes en un an. Le marché du vélo a fortement reculé l'année dernière, selon le rapport annuel publié en début de semaine par l'Observatoire du cycle. En cause, le contexte économique, mais aussi un recours plus important à la réparation, plus 20% par rapport à 2022 et même plus 120% par rapport à 2019. Le recul des ventes de vélos neufs n'est donc pas synonyme d'un recul de la pratique, selon Virgile Caillé. Il est délégué général de l'Union Sport Cycle.
On voit de plus en plus de Français qui utilisent leur vélo. Il y a également dans le cadre du plan national vélo tout un dispositif pour développer la pratique du vélo chez les plus jeunes, le plan savoir rouler à vélo. Donc on voit qu'il y a plein d'actions qui sont en train de se mettre en place. Je pense qu'il faut simplement leur laisser le temps de s'installer. Ne perdons pas de vue que le premier plan national vélo en France, il date de 2018, c'est tout récent. Donc on a beaucoup de retard, il faut qu'on le rattrape progressivement. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a pris la mesure de l'importance de soutenir cette filière de l'économie du vélo sur le plan industriel, mais aussi évidemment sur le plan des usages.
Une tendance qui s'observe aussi pour les vélos enfants avec 31% de ventes en moins entre 2019 et 2023. Et c'est un comportement qui paraît presque humain. Un orang-outan de l'île indonésienne de Sumatra s'est fabriqué un pansement à partir d'une plante médicinale pour guérir d'une blessure en dessous de l'œil. C'est ce qu'a rapporté hier la revue Scientific Reports. Selon les scientifiques, c'est la première fois qu'un tel comportement est observé chez un grand singe à l'état sauvage. Très bonne matinée à tous avec Sud Radio et tout de suite on retrouve Benjamin Glaise.
Merci beaucoup Clément Sobary.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Il est 7h36 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 8h30, vous retrouverez bien évidemment Jean-Jacques Bourdin, son invité politique à 8h30, 9h, eh bien ce sera la tête de liste LR pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy. D'ailleurs on en reparle des européennes dans quelques instants, l'édito politique de Guillaume Bigot. On va revenir sur ce débat, premier débat entre Jordan Bardella pour le RN et Valérie Ayé pour Renaissance. Qu'est-ce que ça a donné? Le décryptage dans un instant, mais d'abord vous nous appelez 0826 300 300, vous avez la parole. Bah oui, avec ce matin qui est avec nous ce matin, Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Benjamin.
Dans l'Hérault, pas loin de Montpellier, c'est ça?
C'est ça, oui.
Bon, vous nous appelez pour agir sur ce rapport de l'ANSES qui préconise de mettre en place un étiquetage sur le bien-être animal. En gros, c'est une forme de Nutri-Score pour informer quoi, les consommateurs sur la manière dont sont traités les animaux du côté de l'élevage, du côté de la ferme et puis jusqu'à l'abattoir. Christophe, ça vous fait réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes éleveur, vous?
Je suis éleveur de cochons.
Ouais.
Cochons plein air, labellisé Nature et Progrès. Et je fais partie aussi d'un groupement qui s'appelle l'Abat Mobile.
Oui,
et
oui.
L'objectif, c'est d'abattre les animaux à la ferme et ensuite de finir le travail à l'abattoir, ce qui fait que ben voilà, l'animal, on lui évite tout le transport vivant.
Donc pour vous, ce Nutri-Score, ça vous permettrait finalement de faire reconnaître ce que vous faites, la qualité du travail et finalement dans le respect de ce bien-être animal.
Ben c'est ça, parce qu'on élève nos animaux le mieux possible, mais après il y a une étape qui est celle de la tuerie dont on n'est pas responsable. Et ben voilà, ce serait bien que ce soit valorisé quand on fait les choses proprement.
Donc ça veut dire que pour le coup ça vous manquait, c'est quelque chose qui vous manquait, Christophe, très clairement?
Oui, parce que si on peut communiquer directement avec nos clients, ça va, mais si c'est de la vente indirecte, ben on ne peut pas argumenter auprès de nos clients.
Donc vous espérez que ça soit mis en place, Christophe, autour de vous, c'est la même chose, très clairement, on l'attend avec impatience, ce Nutri-Score du bien-être animal?
Oui, c'est une attente des éleveurs.
Bon, on verra ce que ça donne, en tout cas, parce que pour l'instant, c'est l'ANSES qui préconise cela à l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Pour l'instant, les politiques ne se sont pas encore véritablement saisies du sujet. On va suivre en tout cas cela. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin sur ce radio. Bonne journée à vous aussi, Christophe. 7h39, Guillaume Bigot nous argent pour son édito politique. Bonjour Guillaume.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Bon, les élections européennes, le décompte, c'est dans un mois, le 9 juin prochain. D'ailleurs, dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales, si ce n'est pas encore fait. Hier, c'était le premier match, un premier débat opposant Jordan Bardella, tête de liste RN à Valérie Ayer, tête de liste Renaissance, près de 2h30 de débat au total sur le plateau de BFM. Guillaume, vous l'avez regardé de bout en bout, c'est un débat équilibré?
Non, Benjamin, la réponse est presque dans la question en fait. C'était pas un débat, c'était un naufrage, soyons sérieux. C'était un porte-avions face à une trottinette. Sur la forme, Madame Ayer récitait, ramait, avait constamment du retard d'ailleurs. Elle paraissait vraiment empruntée, elle sonnait fausse. Et sur le fond aussi, c'était faible du côté de Madame Ayer. Avec le recyclage en début et en fin de séquence de la diabolisation, tout de suite l'épouvantail fasciste Jean-Marie Le Pen qui est entre-temps devenu un point d'histoire de ce parti. En fait, et vous savez que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et on a un peu vu aussi la vérité du macronisme, la mise en avant de ce que l'on est. Et la certitude qu'en étant ce qu'on est, ça suffit à emporter la conviction. Je suis une femme, donc vous n'avez pas le droit de me couper la parole. Je suis fille d'agriculteur, donc je connais l'agriculture. Et tout le monde, d'ailleurs, doit me dire merci. C'était un peu une mise en abîme de l'arrogance du conformisme qui fait le fond de sauce du macronisme. Et je pense que c'est suffisant et insuffisant, et ça tout le monde l'a vu. Par ailleurs, Bardella, au dépit de son jeune âge, quoi qu'on pense de ses idées, est un pro. Madame Ayer, quoi qu'on pense de ses idées, est une amatrice, un peu une novice. Et or, la politique, c'est un art, c'est pas une technique. Un art exige à la fois de la pratique et du talent. Madame Ayer n'est pas dénuée de talent, elle en a un peu, mais elle n'a aucune pratique, et elle était face à un virtuose. Et Valérie Ayer a beaucoup de mérite quand même.
C'est-à-dire, c'est ironique ça?
Non, pas vraiment.
Beaucoup de mérite.
Non, parce que Madame Ayer avait quand même bien préparé son débat. Madame Ayer s'est pas démontée. Jordan Bardella a même parfois semblé un peu décontenancé, voire nerveux, agacé face à cette novice. Mais Valérie Ayer avait un énorme, énorme boulet au pied. C'est-à-dire qu'elle devait quand même assumer le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. La dette, l'inflation, l'effondrement de l'agriculture, l'ensauvagement, la fuite en avant sur la Russie avec les troupes au sol, avec le partage de l'arme nucléaire. Je persiste, je signe. Aucun poids lourd d'ailleurs, aucune jeune pousse du macronisme ne s'est bousculée pour porter les couleurs de l'Europe puissance du président de la République. On parle quand même de la liste du chef de l'État en exercice et même du cœur de conviction du macronisme. Sorbonne 1, Sorbonne 2, s'il y a bien quelque chose qui fait une cohérence dans le macronisme, c'est ça. Et donc je pense que le choix de Madame Ayer et son naufrage reflètent la désaffection des macronistes pour Emmanuel Macron.
Non, oui, c'est pas gagné pour Jordan Bardella, Guillaume.
Non, pas pour autant et sûrement pas encore. C'était pas vraiment d'abord le grand match de l'élection, ça j'ai souligné. D'abord, si Jordan Bardella est l'archi-favori, Valérie Ayer n'est pas nécessairement sa challenger. Raphaël Glucksmann va peut-être la dépasser. Ce sera un compétiteur d'ailleurs bien plus affûté. Et puis, le choc des deux rookies, on pourrait dire, de la politique française, reste à venir. Des deux jeunes pousses très talentueuses, ce sera Bardella face à Attal. L'actuel Premier ministre peut-être face au futur Premier ministre si Emmanuel Macron dissout. Et là, je pense que la concurrence sera autrement plus redoutable. Le piège de Jordan Bardella, c'est aussi celui du virtuel. Les sondages, les selfies, ce n'est pas rien. Ça leur révèle une véritable séduction, un véritable engouement, un talent aussi assez hors norme de Jordan Bardella. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura une participation suffisante dans son camp pour coller avec les intentions de vote qui sont très très hautes et même les certitudes de vote. L'abstention est très haute aux européennes, plus haute encore chez les électeurs du RN. La victoire est assurée, mais le triomphe n'est pas garanti.
Oui, avec quand même quelque chose qui était marquant hier, c'est ce dialogue de sourds également entre Jordan Bardella qui voulait rappeler un peu le bilan de Macron, politique nationale, et puis Valérie Ayé qui voulait mettre ça de côté pour parler surtout des européennes et de bilan européen du groupe Renaissance. C'est vrai que c'est un peu particulier, c'était un débat sans vraiment l'être, d'une certaine manière.
Ouais. Non, c'est un débat qui a vite tourné, à mon avis, à l'effondrement de Mme Ayé. Ouais.
Bon, Guillaume Bigot, en tout cas, on vous retrouve dans quelques minutes après le journal de 8h pour justement continuer de parler de ces européennes. Ça se rapproche et il est important d'en parler. On sera dans un instant, donc Guillaume Bigot en compagnie de Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Et puis je vous rappelle, l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 tout à l'heure, son invité politique, eh bien, c'est François-Xavier Bellamy, député européen et puis bien évidemment tête de liste LR pour ces élections européennes. Dans un instant, on va en parler d'Emmanuel Macron, mais sur toute autre chose. Emmanuel Macron qui persiste et signe. Oui, il y a la possibilité ouverte d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine sous certaines conditions. On vous explique tout cela dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Là, j'aspire au calme.
Bah, c'est raté. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, Lidl fait moins 33% sur l'aspirateur sans fil Silvercrest garanti 3 ans. Soit 19,99€ au lieu de 29,99€.
Moins de 20€ l'aspirateur 2 en 1. On nous vend du vent.
Ah non patron, plutôt un aspirateur à main et balai avec technologie cyclonique et filtre EPA.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio Narbonne.
104.7.
Sud Radio.
Mais où peut-on trouver un salon de jardin à 99,99€?
Et sur ma terrasse, ça devient un salon de terrasse?
On peut dire ça. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseU.com du 2 au 4 mai et profitez de 50% de remise sur le salon de jardin Miami fabriqué avec 80% de matériaux recyclés, soit 99,99€ au lieu de 199,99€. Et c'est seulement du 2 au 4 mai. U, commerçant autrement.
Dont 3,80€ d'éco-participation, prix conseillé par U Enseigne au magasin U participant et valable sur courseU.com pour un retrait du 2 au 4 mai inclus. Dans la limite des stocks disponibles.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Eh ben dis donc, elles sont vraiment belles tes nouvelles lunettes.
Oui, elles sont même magiques. Regarde, je change de clip et toc, j'ai de nouvelles lunettes.
Et le prix ?
Magique aussi, 29€ le clip.
Eh ben dis donc, il est vraiment magique à Flelou. Hein.
Vos Magic Clip, à partir de 29€.
À Flelou, c'est vraiment le bon choix.
Voir conditions en magasin, dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien.
Intersport, promotivé comme jamais.
La team, on porte quoi pour avoir déjà un pied en été pendant les ponts de mai?
Ah, oh, la petite basket en toile Levi's à moins de 30€.
Oh, c'est bon ça!
Jusqu'au 12 mai chez Intersport, c'est plus de style et d'économie. Les chaussures mixtes en toile Levi's Harrison, disponibles en blanc, bleu marine et rose, sont à 29,99€ au lieu de 44,99€, soit 33% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Ah, je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaize.
7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Emmanuel Macron a donc remis ça sur la table. Il évoque de nouveau l'envoi de troupes au sol en Ukraine si la situation le nécessite. Position défendue dans le magazine britannique The Economist. Xavier Tittelmann, bonjour.
Bonjour.
Ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio.
Alors,
on va revenir sur ce que dit précisément le chef de l'État. Il dit, à propos de l'envoi donc de troupes occidentales au sol en Ukraine, il dit que si les Russes devaient aller percer les lignes de front et s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Voilà ce qu'il dit. Que penser d'ailleurs d'abord de cette déclaration et pourquoi s'est-il senti obligé de redire finalement ce qu'il avait déjà dit il y a deux mois, Xavier Tittelmann.
Déjà parce qu'on s'est mis trop de barrières depuis le début. On s'est interdit un certain nombre de choses que finalement on a évolué. On ne voulait pas donner de chars, on a fini par donner des chars. On ne voulait pas donner de missiles longue portée, on a donné des missiles longue portée. Et on voit bien que pratiquement, c'est des choses qui ont eu un effet important sur le terrain sans qu'il n'y ait eu de conséquences. Les fameuses lignes rouges qu'on voulait absolument s'imposer à nous-mêmes. Et c'est ça la dimension mentale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de restrictions. Ça veut dire aussi qu'on ne permettrait pas à la Russie de gagner. C'est un signal politique, évidemment.
Mais est-ce qu'il y a aussi un signal envoyé aux autres chefs d'État européens? On le sait, il y a deux mois, quand Emmanuel Macron avait fait cette proposition-là, ça avait provoqué un tollé au niveau européen. Est-ce qu'il y a là le fait, que ça soit d'ailleurs dans The Economist, l'idée de peut-être bouger un petit peu les lignes avec ses homologues européens?
Oui, c'est un signal encore une fois européen, mais finalement, il y avait quand même 8 pays qui s'étaient alignés sur la position française à l'époque, qui étaient simplement de déployer des troupes. Et pas que européens, les Canadiens également étaient favorables. Donc, faut bien voir que c'est, oui, il continue sa politique internationale en montrant qu'on est leader dans cette dimension. On a appris la compréhension totale du danger que représente la Russie, y compris après l'Ukraine, parce qu'ils le disent ouvertement, annuler l'indépendance des pays baltes. Ça, c'est un travail qui est actuellement à l'Assemblée nationale russe. Donc, ils le disent qu'ils iront plus loin. Donc aujourd'hui, oui, ils sont fermes sur ces positions. Nous aussi, on est fermes sur nos positions.
Fermeté avec deux conditions tout de même. Il faut que les Ukrainiens en fassent la demande, justement, de cette aide. Et puis que les Russes percent le front. Or, ces derniers jours, Xavier Tittelmann, voilà, Moscou a revendiqué un certain nombre de villages, la prise de plusieurs villages. Est-ce que les Russes sont en mesure aujourd'hui, à moyen ou court terme, de percer ce front?
Non, à mon avis, non. Alors, même s'ils prennent des villages, faut comprendre qu'ils avancent moins vite que ce que les Ukrainiens avaient avancé dans leur grande contre-offensive de l'été 2023, que tout le monde considère comme un échec aujourd'hui. Depuis le début de l'année, les Russes, ils ont progressé de 400 km dans le Donbass, c'est-à-dire qu'ils arriveraient à prendre la totalité du Donbass en 2036, à la vitesse actuelle.
Oui.
Donc, par contre, il faut qu'ils comprennent, enfin, les Russes sont totalement conscients, qu'ils ont une fenêtre qui est très courte, qui dure un mois et demi, pendant laquelle les Ukrainiens n'ont pas encore reçu les équipements américains qui vont arriver en masse, ainsi que les obus qui ont été sourcés par la République tchèque. Donc là, il faut qu'ils se dépêchent pour avancer, parce qu'à partir du milieu du mois de juin, a priori, ils vont vraiment devoir avoir un front qui va être totalement gelé.
Donc si je vous comprends bien, en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est de la pure dissuasion, rien d'autre?
Tout à fait, c'est une posture diplomatique. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on envoie des hommes sur le terrain qu'on serait forcément belligérant. On peut envoyer des troupes sur le front nord contre la Biélorussie, où il y a des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont présents avec des canons, des chars, au cas où la Biélorussie attaquerait. Ça voudrait dire qu'on serait présent sur le terrain sans avoir à tirer un seul coup de feu contre la Russie, parce qu'on pourrait redonner de la masse de manœuvre à l'Ukraine simplement en se déployant sur une zone dans laquelle il n'y a absolument aucun combat.
Parmi les réactions, on a notamment le chef de la diplomatie hongroise, vous l'avez peut-être entendu, qui déclare que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine déclencherait la troisième guerre mondiale. Voilà, je le cite, c'est quoi? C'est de la surenchère? On est toujours sur cette forme de dissuasion? Ou est-ce qu'on doit prendre quand même un petit peu au sérieux ces propos, ces menaces, selon vous?
Non, moi je suis contre l'utilisation de notre armée pour entrer en guerre ouvertement, c'est-à-dire je veux pas qu'un soldat français tire sur un soldat russe. Parce qu'effectivement, là, on serait sur un engrenage. Mais si la France se déploie dans un environnement avec des systèmes de défense aérien, avec un cadre bien précis dans lequel on n'applique que la légitime défense si jamais on se fait tirer dessus, là, il n'y a absolument aucun risque. Parce que oui, si jamais on se retrouve en confrontation directe, on sera en Troisième Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, les services allemands l'ont encore rappelé, les Russes se préparent à attaquer les pays de l'OTAN dès 2026, et notamment les États baltes.
Et là, ça risque d'être explosif pour le coup, hein.
Et ben dans ce cas-là, effectivement, on évite la Troisième Guerre mondiale qui est prévue et à laquelle les Russes se préparent aujourd'hui. Nous, on a une difficulté, c'est que si l'Ukraine s'effondrait, si l'Ukraine était envahie, si les Russes arrivaient à imposer une sorte de front gelé et à reconstituer leurs forces, ils ont une masse de manœuvre qu'ils peuvent recréer d'ici quelques années. Mmh. Ils ont des capacités à sortir des chars en grande quantité de leur stockage, même s'ils sont de faible qualité. Et là, il y a un vrai risque si les Américains ne sont plus avec nous. Et il y a un doute, encore une fois, parce qu'on ne sait pas qui va être élu.
Oui, parce que pour l'instant, finalement, l'aide a été débloquée, mais effectivement, on a les élections américaines qui se profilent, présidentielles, et effectivement, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump, ça peut changer du tout au tout sur la position américaine quant à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Xavier Tittleman, j'aimerais qu'on évoque aussi un autre sujet sensible évoqué là aussi par Emmanuel Macron, c'est la possibilité d'élargir notre dissuasion nucléaire à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Déjà concrètement, quelles seraient les conséquences d'une telle décision? Est-ce que vous l'approuvez, cette proposition? Est-ce qu'elle peut être intéressante?
Alors, il y a des façons bonnes et mauvaises de penser à l'extension de notre dissuasion. Moi, je suis souverainiste, je suis opposé à toute idée de partage de la clé nucléaire. On est la France, on a notre arme et on est les seuls à pouvoir décider. Aujourd'hui, notre doctrine, elle dit simplement que ce sont les intérêts vitaux de la nation. S'ils sont menacés, on peut utiliser l'arme, y compris en premier recours. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans notre doctrine, être les premiers à tirer. Sauf que c'est pas clair. Est-ce que les pays baltes font partie de notre zone d'influence qui déclencherait le feu nucléaire? C'est peut-être ça. Est-ce que ça voudrait dire qu'on officialiserait que l'intégralité de l'Union européenne est protégée et dès qu'un pays de l'Union européenne est attaqué, on est capable d'utiliser l'arme nucléaire? C'est une première option. La deuxième option, c'est qu'on fasse exactement comme les États-Unis qui ont partagé leurs armes nucléaires avec la Belgique, l'Italie, la Turquie et les Pays-Bas. Ces pays peuvent lancer l'arme nucléaire sur ordre des États-Unis avec leur double clé. Et dans ce cadre-là, n'importe quoi, peut-être que si on vendait des Rafales à la Pologne, on pourrait accompagner le Rafale de notre arme nucléaire, mais ça resterait sous double clé. Personne, aucun état-major, aucun politique aujourd'hui n'imagine de partager la capacité nucléaire, que ce soit industrielle. On ne veut être dépendant de personne et on ne veut absolument pas que quelqu'un d'autre puisse décider à notre place.
Parce que je vous pose la question parce que c'est vrai que c'est assez flou quand on écoute un petit peu Emmanuel Macron et qui propose de prendre en compte la capacité, donc à entendre la capacité nucléaire qu'on a, sans pour autant la mutualiser. C'est vrai que quand on lit ça, quand on écoute ça, c'est pas clair. Alors est-ce qu'on est dans une logique, là encore, de dissuasion? On est le moins clair possible pour dissuader le plus.
Oui, l'objectif, encore une fois, c'est une posture politique. Mais pour moi, c'est surtout, encore une fois, un signal. On est en train de faire comprendre que la totalité de l'Union européenne serait protégée par l'arme nucléaire française, sans le dire ouvertement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur les pays baltes. C'est pas la Pologne, c'est pas juste la Belgique qui serait nos intérêts vitaux. On va jusque plus loin. Mais je pense pas qu'il faille attendre plus de précision, en tout cas prochainement. Peut-être qu'on va avoir des remerciements des pays baltes ou de la Pologne et des pays qui sont en première ligne face à la Russie. Et certainement que ça s'arrêtera là, parce qu'encore une fois, notre posture nucléaire, elle est claire, elle est dissuasive, mais elle n'est pas précise. Ce sont nos intérêts qui doivent être menacés pour qu'on puisse utiliser la bombe.
Un dernier mot, Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure à 8h30, reçoit François-Xavier Bellamy, qui est tête de liste LR pour les européennes, qui a réagi justement sur cette question de la dissuasion nucléaire et qui dit « Un chef de l'État français ne devrait pas dire ça ». Est-ce que là, on est dans une posture purement politique ou est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire là ?
Alors oui, pour un opposant, c'est normal de critiquer quel que soit ce qui va être dit par le public, le pouvoir.
Oui.
Maintenant, c'est sûr que ce serait plutôt une capacité de rayonnement. Si on prend mon deuxième scénario tout à l'heure, si on dit maintenant la Pologne dépend de la France pour ses armes nucléaires, c'est exactement ce que font les États-Unis. C'est un rayonnement des États-Unis qui s'impose sur l'Europe. Si un jour on veut être crédible au niveau européen, moi je suis un militant pour sortir de l'OTAN par exemple, mais ça veut dire sortir de l'OTAN. Ça veut dire, objectif 2040 évidemment, ça veut dire avoir une force européenne structurée dans laquelle, oui, on peut partager une arme nucléaire tous ensemble et on n'a pas besoin que ça se fasse dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir les Grande-Bretagne avec nous. Donc, dans ce cadre-là, la France serait le garant nucléaire de l'Europe en tant que capacité nucléaire unique et tous les pays pourraient partager cette compétence, tout comme les États-Unis vendent leurs équipements et fournissent des armes qui vont avec.
Xavier Tittleman, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour votre éclairage. Je rappelle, ancien aviateur et militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Merci à vous et très bonne journée. 7h56 sur Sud Radio. On revient dans un instant. La météo, les infos, puis notre débat. Frédéric Dabi, Guillaume Bigot, à tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Grand frais.
Allô chef, c'est Damien, votre seconde cuisine. Pour le service de ce midi, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un côte de Provence, parfait pour mon barbecue. Donc il y a mon beau-frère qui va vous donner un coup de main. La bonne bouffe, il connaît bien.
Pour la foire au vin de printemps chez Grand Frais, jusqu'au 18 mai, le Côte de Provence AOP Lalamande est à 6,50€ la bouteille de 75 centilitres si de acheté. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais, le meilleur marché.
Soit 13€ le lot de 2, soit 8,67€ le litre. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste horaire sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Sud Radio Apt
95.3
Sud Radio
TF1 The Voice, les Cross Battles, présentés par Nico Saliegas, demain sur TF1 et en streaming sur TF1+, en association avec les Indes Radio.
Là, vous entendez et vous pensez à Leroy Merlin en grattant mollement la peinture qui s'écaille sur le banc de votre jardin. Mais là, quand je dis que jusqu'au 14 mai, les peintures de la gamme Multimatériaux V33 2 litres sont à 39,90€ au lieu de 49,90€, soit 20% de remise, là vous grattez carrément tout le banc. Le portail, les volets, et c'est parti pour tout repeindre.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Soit 19,95€ le litre.
C'est le printemps. Les enfants vont pouvoir enfin jouer dehors.
Oui, mais toi aussi, tu vas jouer des heures dans leur nouvelle maison de jardin.
Du 26 avril au 12 mai chez Jouet Club, la maison nature avec sa cuisine et Smoby, fabriquée en France, est au prix de 119,99€ au lieu de 149,99€.
Conditions en magasin et sur jouetclub.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
La météo Sud Radio.
Avec usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com.
Bonjour Amy André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, la météo, une amélioration mais légère.
Oui, effectivement, légère. Remarquez, si vous l'avez remarqué, ce matin, depuis la Bretagne jusqu'au bassin parisien, passant par la Normandie, depuis le centre jusque vers l'Auvergne, mais également au bord de la Méditerranée et le nord de Midi-Pyrénées, c'est le soleil qui domine ce matin, avec de très belles éclaircies, mais des éclaircies qui ont permis aux températures de se rafraîchir. En revanche, nous avons encore pas mal de nuages depuis les Hauts-de-France jusque vers le Grand Est, avec encore quelques averses sur les frontières. Nous avons également des nuages sur le Jura et les Alpes. Et puis nous avons ces nouveaux nuages qui, eux, sont arrivés par l'océan.